Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Et c'est maintenant Régis, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Voilà, alors aujourd'hui, pour notre émission, j'ai le grand plaisir d'avoir de recevoir deux responsables d'une toute jeune association de soutien aux migrants qui s'appelle les Amis de Chandouraine, Béatrice et Mireille, et puis deux migrants qui sont venus avec elles, Mustapha et Mahdi. Alors nous allons donc parler aujourd'hui, bien sûr, de l'accueil des migrants, hein, puisque c'est une des campagnes d'Amnesty International et on a cette association qui vient en aide. Ensuite, on parlera, toujours en lien avec les migrants, de la situation en Libye, notamment les dernières images que l'on a reçues sur la pratique de l'esclavage. Et je vous lirai un communiqué d'une association de lutte contre l'esclavage en Mauritanie qui fait le lien avec ce qui s'est passé en Libye. Ensuite, on parlera de harcèlement en ligne dont sont victimes les femmes. Et Amnesty a sorti un communiqué de presse là-dessus, suite à une recherche. Et puis, Amnesty a découvert des choses illégales qui se passaient à Paris. Donc, je vous en parlerai aussi, concernant les ventes d'armes. Et puis, on parlera de notre prochaine action, les 10 jours pour signer, qui va bientôt arriver, puisque la semaine des 10 jours pour signer, c'est la semaine du 4 au 10 décembre. Et il y a des activités qui seront menées sur Digne. Voilà, donc pour commencer, je suis donc très heureux de recevoir cette association qui s'appelle les Amis de Chandouraine. En effet, dans le cadre de notre campagne qui s'appelle I Welcome sur l'accueil des réfugiés, ce que demande Amnesty pour cette campagne, c'est d'ouvrir des voies légales et sûres pour les réfugiés, de ne pas conclure d'accords qui visent à maintenir les réfugiés à distance, ce qui se fait hélas, notamment avec la Libye, et puis de renforcer la protection des réfugiés. Alors, c'est ce que l'on demande à tous les gouvernements, parce qu'à Amnesty, on pense que certes, il y a une crise des réfugiés, mais il y a aussi une crise de l'accueil des réfugiés et de la répartition des charges entre les différents pays riches de l'Europe. Voilà, alors... En France, qu'on remarque, comme ailleurs, dans d'autres pays, la volonté du public d'accueillir les réfugiés est réelle. Des bénévoles se mobilisent pour venir en aide aux réfugiés, des personnes qui accompagnent des réfugiés dans l'apprentissage du français, pour leurs démarches administratives, pour les soutenir, ou même juste échanger avec eux et leur apporter un peu de soutien. Cette volonté d'accueillir est aux antipodes de la politique pratiquée par les États et du discours de nos dirigeants qui tournent le dos à leur obligation de protection des réfugiés. Il est grand temps que les voix de la raison, de la solidarité, de l'empathie l'emportent. Tous ensemble, nous devons faire respecter les droits des réfugiés. Alors, bonjour Mireille, bonjour Béatrice, Mustapha et Mahdi.
Bonjour.
Voilà, je suis content de vous accueillir parce que c'est une association toute jeune. Il y a aussi des membres d'Amnesty qui ont rejoint cette association. Parce qu'en fait, Amnesty, ce n'est pas une association humanitaire, ça ne donne pas de l'aide directe. C'est une association qui alerte sur les violations des droits humains. Et ensuite, les militants d'Amnesty, souvent, ont envie d'aller directement se confronter à ces problèmes et aider directement les personnes. Et alors, elles se tournent vers d'autres associations, comme le Secours Populaire et oui. Les Amis de Chandouraine. Alors, Mireille, si tu peux un peu nous parler de la... Ou Béatrice, si ouais. Tu peux nous parler de la création de cette association.
Alors, je vais commencer par dire que notre association est toute jeune, qu'elle est née d'un certain nombre de bénévoles sur le terrain, c'est-à-dire à Chandouraine, aussi à Haute-Chandouraine. C'est en pratiquant les cours de français, d'art plastique, et au fur et à mesure qu'on connaissait les personnes qui vivaient là-bas, qu'on a pensé qu'il y avait vraiment lieu de créer une association pour les aider plus particulièrement dans leur vie quotidienne et dans leurs démarches administratives qui sont vraiment des longs parcours très difficiles, tout en français, en pensant qu'eux ne sont pas souvent francophones quand ils arrivent. Donc d'abord, on a donné des cours de français. Ensuite, on a donné aussi des cours d'art plastique, de gravure. On a créé un vestiaire à Chandouraine où on distribue des vêtements avec l'aide et le soutien du Secours populaire. Et donc, on s'est occupé d'abord, dans un premier temps, des résidents de Chandouraine. On a élargi le public à parce qu'ils sont demandeurs d'asile, mais pas encore réfugiés, souvent. On a aussi aidé des réfugiés et ceux aussi qui sont partis vers des centres comme Vitrolles, où ils sont appelés souvent à être accompagnés dans leur pays où ils ont mis leurs empreintes. Donc les démarches sont très difficiles pour eux. Alors dans un premier temps, on les accompagne quand on peut à la préfecture, mais aussi à l'OFI à Marseille et également à Paris où se trouve l'OFPRA, qui est le lieu où ils ont leur entretien, leur premier entretien pour être demandeurs d'asile. Et ensuite à la CNDA, quand ils n'ont pas eu, ils ont été déboutés à l'OFPRA, ils vont à la CNDA, qui est une cour nationale pour les demandeurs d'asile.
Oui, c'est la commission de recours, voilà, hein, quand ils font appel de la décision de l'OFPRA.
Voilà. Alors évidemment, on tient à dire que nous n'intervenons qu'en complément des travailleurs sociaux de Chandouraine, pour qui c'est le travail, mais qui sont débordés et qui ne peuvent pas prêter toujours attention jusqu'au bout et dans toutes les demandes des résidents, puisque ils sont très nombreux et ils sont débordés de travail. Nous, on aide ceux qui sont le plus démunis à cause de la langue, de leur histoire qui est compliquée, et surtout pour les transports. Et par exemple, aller à Paris, c'est en TGV, ils vont dans un hôtel en banlieue, c'est extrêmement compliqué, il faut prendre le RER, il y en a certains qui n'ont jamais pris un train, c'est très compliqué pour eux. Alors on les aide pratiquement dans ces démarches là bon, notre association est toute jeune, elle a pour l'instant à peu près 50 adhérents. On les accompagne aussi dans leur démarche juridique, et par exemple quand ils ont besoin d'un avocat, d'un traducteur, dans les voyages et les logements, comme j'ai pu les logements. Ensuite, on organise des événements pour un peu financer nos actions, parce que tout ça, évidemment, coûte très cher. Donc, on a fait des petites expositions, comme à la médiathèque et à la galerie de Digne. Tout l'argent qu'on a récolté est allé, évidemment, à l'association.
L'exposition, c'était des gravures qui avaient été préparées avec l'aide de deux artistes de la région, hein, si on peut les citer.
Bien sûr.
Cécile Nicolino et Pierre Laroche. Donc, ils ont travaillé en atelier à Chandouraine pour faire cette exposition à Digne, donc où ils ont fait des gravures. Ils ont écrit des textes aussi. Des poésies, des choses qui parlaient de leur vie, de leur parcours.
C'était donc dans le cadre de l'opération Regard Migrant.
C'est ça.
Et c'est vrai qu'à l'inauguration, il y avait énormément de monde.
Oui.
Et je pense que les gravures sont bien parties.
Oui, les gravures, il y avait un grand cahier où il y avait beaucoup d'écrits qui avaient été recueillis. Et ça a énormément touché les gens.
Oui.
Oui.
Les livres qui étaient faits avec les témoignages, c'était très fort.
Ouais. Oui.
C'était très magnifique.
Il y avait
magnifique.
Des textes qui étaient magnifiques et très, très poignants. Et voilà, je voulais dire aussi, moi, que l'association Les Amis du Chandouraine, c'est une association qui est sans aucune vocation politique. Je pense que c'est bien de le préciser. Voilà, hein, c'est elle est née, comme l'a dit Béatrice, c'est de de l'amitié, des relations qu'on avait avec ces jeunes. Hein. Et donc, on répond aux besoins urgents que les services publics ne peuvent pas prendre en charge, c'est-à-dire tout ce qui est le côté humain aussi, hein, amitié, accueil en famille. Il y a des personnes qui font, par exemple, le café gourmand à côté de Chandouraine, où régulièrement les jeunes vont là-bas boire le café, discutent. Voilà, c'est toutes des petites choses comme ça, une invitation pour un week-end, des accompagnements à des sorties, des concerts. On essaye de voir, il y a des gens qui sont un peu plus au courant des concerts, quand il y a des choses gratuites où on peut, voilà. Donc c'est tout ça aussi, c'est organiser aussi ça, les sorties, les randonnées, les
oui,
rencontres
c'est-à-dire
de
que
foot.
Au départ, ce sont des bénévoles qui sont venus par amitié, par empathie,
par solidarité. Par solidarité aussi, hein, parce que voilà, c'est des gens qui voilà.
Donner de leur temps, en fonction de ce qu'ils savaient faire. Et puis
après, c'est les amitiés qui se créent. Hein, ils ont tous des personnalités différentes. Ils ont tous des besoins aussi humains différents. Certains aiment la randonnée, d'autres aiment la musique, d'autres aiment le football. C'est comme tout le monde, quoi. Donc, petit à petit, des choses se sont mises en place. Il y avait des groupes où ils aimaient bien faire des randonnées. Ben, il y a des personnes qui font ça. D'autres, c'est plutôt pour les sorties. Voilà, hein. Ils aiment le sport, hein, beaucoup aussi. Donc, voilà, les accueillir pour un week-end, un repas, ça, c'est quelque chose de très, très important, hein, aussi.
C'est bien.
Les intégrer dans nos familles. Rencontrer, pour certains, les parents... Les enfants, c'est des choses qui sont très très bien aussi. Hein. Et dans l'association aussi, il y avait quelque chose d'important. Tu l'as parlé du vestiaire aussi. Le vestiaire, ils ont besoin de vêtements. Et avec une grande aide des secours populaires de Digne, il faut le dire quand même, on a pu créer le vestiaire. On recueille des vêtements et chaussures aussi. Voilà, alors il y a des choses qu'on peut, par exemple, comme les sous-vêtements, on est obligé de les acheter. Vous doutez bien qu'on n'a pas envie de porter des sous-vêtements usagés. Donc ça aussi, voilà. Et l'association, elle a été créée aussi pour ça, pour ces besoins où on avait besoin de matériellement, on avait besoin d'acheter, et que individuellement, beaucoup de gens achetaient chacun de leur côté, et puis on s'est rendu compte que finalement, ça devenait difficile pour tout le monde aussi, et que si on réunissait un peu nos forces, nos cagnottes, ça allait, c'était peut-être un peu plus. Plus point.
Donc peut-être on peut faire un appel aux auditeurs, s'ils veulent rejoindre l'association, ils peuvent adhérer donc aux amis de Chandouraine, les amis avec un Z. Mmh. Voilà. Et ils peuvent faire des dons. Alors l'adhésion est 10 euros et ils peuvent faire des dons pour justement aider à toutes ces activités.
Ou participer à des activités. Mais chacun est libre. Hein. Il y a des gens qui veulent donner 10 euros puis qui veulent être un petit peu au courant de ce qui se passe aussi à côté de chez eux. Il y en a d'autres qui veulent être un peu plus investis. Chacun fait ce qu'il peut, comme il peut et comme il veut.
Voilà. Et pour vous contacter,
Les amis de Chandouraine. Alors, les amis de Chandouraine, par téléphone, je vais donner le numéro de téléphone, 06 83 38 95 40.
Voilà, répète-le une
fois. 06 83 38 95 40. Et sinon, passez par l'adresse mail. Qui
oui.
Les amis de Chandouraine.
Dans le micro, c'est mieux.
Ça ne connaît pas bien.
Bon. Ouais, c'est tout nouveau. Donc, de toute façon, ces indications seront notées sur le site de Fréquence Mistral. Vous pourrez les retrouver. Et voilà. Donc, si vous voulez vous joindre à cette action, cette belle action hein, de solidarité, n'hésitez pas.
Parmi les actions des bénévoles, il y a aussi les cours de français qui sont donnés au CAO, des cours de français, des cours d'anglais. C'est un peu à la demande aussi. Hein. Je sais qu'il y a un jeune garçon qui avait besoin de cours de mathématiques. Enfin voilà, c'est un peu aussi en fonction. Mais ça, c'est important aussi. de leur donner un peu les outils pour pouvoir, s'intégrer, s'exprimer et puis et rentrer en contact avec les gens qui d'ici quoi aussi hein. Donc
oui, c'est important pour l'intégration d'apprendre la langue.
Et il y a des gens qui sont très investis là aussi. Et des activités d'art plastique aussi, enfin voilà.
Et je voulais rajouter aussi que on suit pas mal de personnes et que malgré les difficultés, les choses quand même avancent un peu. Il faut souligner les choses positives et que il y a de beaux exemples de réussite, d'amitié. On a lié beaucoup de liens avec eux et c'est très riche pour nous aussi. Et on est très investis et on voudrait que ça continue dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a amené deux amis avec nous aujourd'hui et que on voulait leur donner un petit peu la parole. Alors, par exemple, Mustapha, et s'il veut bien un petit peu raconter son chemin.
Oui. Oui,
très bien. Alors.
Oui, bonjour Mustapha.
Bonjour.
Voilà, ben écoute. Oui, mets-toi bien devant le micro, voilà.
Ah oui.
Et si tu veux un peu nous raconter, ton histoire.
Oui, je suis Mustapha, je viens du Irak et j'ai demandé asile ici en France. Ça fait presque un an. Et j'étais de Dublinais, mais après de Dublinais. Et après, j'ai fait l'interview après, à Paris. Et maintenant, je vais attendre pour le résultat.
Voilà.
Oui.
Alors, Dublinais, ça veut dire que tu devais être envoyé dans le pays, premier pays d'Europe où tu as donné ton nom. Tu as été.
La frontière, je crois, là, non ?
À la frontière, oui.
À la frontière, j'étais à Finlande, donc j'étais à Dublinais.
Et ensuite, tu as été dédubliné.
Ah oui.
C'est-à-dire que
oui,
on ne te renvoyait pas dans le pays par lequel tu étais rentré.
C'est ça. C'est le long chemin avec la bénévole et la jumelle de Baradi, bien sûr. Et aidé beaucoup, et moralement et matériellement, je crois.
Voilà.
Oui, voilà. Je voulais juste rajouter quelque chose. Il y a 9 mois, même presque un an, Mustapha ne parlait pas un mot de français.
Ah oui,
bravo.
Merci. Vraiment, il fait partie de nos exemples.
Oui, c'est grâce à l'organisation et la bénévole aussi.
Les bénévoles qui ont donné des cours de français.
Le cours de français, il a cours, donne la leçon derrière la leçon aussi. Ça veut dire donne la glace et derrière la glace. Si j'ai un truc pour expliquer, je direct parle sur le téléphone avec Béatrice pour expliquer ça. Ah oui, j'ai la maison avec vous aussi.
Chez Béatrice.
Chez Béatrice, chez Cécile Nicolino.
Chez Gérard aussi.
Ah oui.
J'imagine.
Ah oui. Très bonne personne. Merci donc, merci bien.
Voilà.
Merci à fond de cœur.
Ben merci pour ce témoignage. Ce que m'a dit veut dire quelque chose.
Oui.
Peut-être que tu traduiras ce qu'il dit.
Ah, bien sûr, je vous en prie.
Oui, je suis Mahadima, je suis Mahadi Soudanais. Resté ici ici 8 mois. J'observe des amis de Chandoren aider tout le monde ici. Très gentil avec tout le monde. Comme mon frère, nous. Comme mon frère nous avec programme IDI, avec Stéré Joué avec nous, très gentil avec nous. Après, partage petit peu personne, partage les vitrolles. Dans vitrolles là-bas, IDI personne dans vitrolles avec programme, tout programme lavé. Merci tout le monde ici à aider nous.
Merci Mazi pour ton témoignage et qui montre aussi la chaleur qu'il y a entre les personnes, hein, puisque à la première réunion, quand le CAO s'est installé à Chantercier, il y avait beaucoup de réticences. Et puis, bon, les gens s'aperçoivent que ben, ce sont des gens qui, comme nous, veulent simplement vivre en paix et dans de bonnes relations humaines. Hein. C'est ce qui se passe grâce notamment aux bénévoles des amis de Chandouraine.
On peut dire qu'ils ne sont pas partis de chez eux par plaisir, et ils sont là vraiment comme dernier endroit où ils peuvent avoir la paix, et un peu de solidarité, parce que c'est très difficile pour eux. Ils ont quitté leur famille, leur pays. Mmh. Ils ont traversé beaucoup, beaucoup de pays. Ils ont tout laissé derrière eux. Et là, maintenant, je pense que pour nous, c'est comme un devoir de les aider.
Voilà. Bien sûr.
Mmh. Ah oui.
Et oui, le droit d'asile, c'est quand même le dernier droit qui reste quand on a perdu un peu tous les autres chez soi. Hein. Donc, c'est un devoir de solidarité. Et c'est vrai que souvent, les individus sont plus à la hauteur que les États, hélas. Ouais. Donc, on va peut-être mettre une musique maintenant que les amis de Chandouraine ont choisi. Ça s'appelle « Plus rien ne m'étonne ».
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu mets la bombe de l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses être ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, tout le monde est en. Partager le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Il s'étonne que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Wolof. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire mandin. Une partie de l'Empire mandin
se trouva chez les aussi. Ils ont partagé ma Africa. I say ma Africa. Ils ont partagé le monde. Rien ne me donne. Rien ne me donne. Partager le monde, aïe aïe aïe, plus rien ne me donne, plus rien ne me
Voilà, pour continuer un peu sur la problématique des mineurs. Donc c'est assez difficile au niveau technique de suivre tout le parcours qu'ils doivent faire au niveau administratif quand ils demandent asile pour obtenir les papiers. Peut-être, Béatrice, tu pourrais un petit peu nous dire, puisque tu les as accompagnés, certains.
Alors, je vais expliquer grossièrement que quand pour faire la demande d'asile, il faut qu'ils aient un entretien à l'OFPRA. L'OFPRA est à Paris. Et s'ils sont refusés, si cet entretien n'a pas été jugé valable et qu'ils sont refusés, ils doivent passer à la CNDA, qui est une cour pour demandeurs d'asile, enfin une cour de justice, où ils sont entendus avec un avocat, ils sont entendus et questionnés par une cour. Il y a un président, des assesseurs, des juges, et en général, ça va très vite. Ils ont un traducteur pour ceux qui ne sont pas francophones, mais les questions vont très vite. Donc, il serait bon de souligner que tous ceux qui vont à la CNDA ont besoin d'aide pour leur dossier, pour leur accompagnement. Et c'est très important de les soutenir à ce moment-là parce que c'est difficile.
Voilà, alors d'ailleurs.
Ah oui, la CNDA, c'est pour les majeurs, évidemment. C'est pour les majeurs et les mineurs ne sont pas du tout dans cette procédure-là.
Voilà, parce qu'il y a des mineurs, hein, notamment au CAO de Champtercier, des mineurs qui sont arrivés souvent seuls, non accompagnés. Et normalement, c'est l'aide sociale à l'enfance qui les prend en charge. Voilà, après avoir vérifié s'ils étaient vraiment mineurs.
Oui.
Bon, ce qui n'est pas toujours très agréable et facile. Voilà, merci beaucoup aux membres de l'association et
merci à vous.
Ainsi qu'à Mustapha et Mahdi.
Merci à vous aussi.
Pour vos témoignages. Voilà. Alors, on continue un petit peu dans ce domaine. Vous avez vu récemment le scandale qu'a été le film montré sur la pratique de l'esclavage en Libye. Et en fait, je vais vous lire le communiqué de l'association qui s'appelle IRA France Mauritanie, qui est une association de lutte contre l'esclavage en Mauritanie, parce que dans ce pays, il y a toujours l'esclavage tel qu'il se pratiquait autrefois et qu'on pensait disparu. Mais en fait, toutes les autorités savent très bien que l'esclavage perdure dans ce pays, c'est-à-dire que les personnes appartiennent à leur maître et le maître a tous les droits, comme si ces personnes étaient des objets. Hein. Donc, je suis aussi membre d'IRA France Mauritanie et donc j'ai pas été étonné par les pratiques qui se passaient en Libye. Alors on savait Amnesty que c'était terrible et que c'était même très difficile pour eux de raconter ce qu'ils ont vécu. Alors voilà, je vous lis le communiqué que nous venons de sortir. Aujourd'hui, le monde s'offusque de la découverte de la vente d'esclaves en Libye et c'est heureusement très fortement relayé par les médias. Aujourd'hui, l'esclavage traditionnel, où l'on peut vendre ou donner en cadeau de mariage son esclave et sa descendance, est toujours présent et réel en Mauritanie. Pourquoi ce silence? Parce qu'aux yeux du monde, les autorités mauritaniennes se couvrent derrière des lois abolissant, criminalisant et décrétant comme crime contre l'humanité l'esclavage dans le pays qu'elles dirigent d'une main de fer. Oui, les lois existent, mais ne sont pas appliquées en Mauritanie. Au contraire, les Mauritaniens anti-esclavagistes sont discriminés, réprimés, torturés, voire emprisonnés, et sont refoulés toute personne ou délégation voulant aborder en Mauritanie la question de l'esclavage. Qu'attendent les médias pour relayer les alertes d'Amnesty International, de Walk Free, de Freedom United, de l'ACAT, de la FIDH, en soutenant le leader abolitionniste Biram Dahabé, qui a obtenu en 2013 le prix ONU des droits de l'homme pour justement dénoncer l'esclavage dans son pays. Nous, IRA France-Mauritanie, alors l'IRA, ça veut dire Initiation pour la résurgence du mouvement abolitionniste, c'est un peu compliqué, mais... ONG pacifiste, se voulant être un relais d'alerte sur les pratiques de l'esclavage en Mauritanie, demandons à être entendus auprès de ces mêmes médias pour qu'enfin la communauté internationale ouvre les yeux et se manifeste. Nous leur évoquerons non seulement les pratiques de l'esclavage, mais aussi le racisme d'État, l'exclusion et l'apartheid qui sévissent en Mauritanie. Pour information, l'ONG IRA Mauritanie n'a jamais pu obtenir d'existence légale en Mauritanie. Voilà. Le communiqué de presse d'IRA France-Mauritanie. On va maintenant écouter une chanson de Julien Clerc, Réfugié.
Réfugié, tu as tous les droits. Marcher à quatre pattes ou au pas de loi. Réfugié, tu n'as plus de loi, plus de terre ou de combat. Avoir des droits, avoir un toit. Essayons un jour l'amour, le jour où chez nous tu seras. Chez toi, réfugié, réfugié, nous sommes tous, tous, tous des réfugiés. Bien sûr, on peut oublier, renoncer même au passé. Et abolir la mémoire. Comment faire un livre d'histoire? Avoir des droits, avoir un toit. Essayons un jour l'amour. Le jour où chez nous tu seras chez toi, réfugié, réfugié, nous sommes tous, tous, tous des réfugiés. Hiver, printemps, automne, été. Nous sommes tous des réfugiés sur cette terre qui est notre terre, qu'il faudra bien un jour partager. Avoir des droits, avoir un toit. Essayons un jour l'amour, le jour où chez nous tu seras chez toi, réfugié, réfugié, nous sommes tous, tous, tous des réfugiés, nous sommes tous, tous.
Voilà, donc nous avons mené une enquête sur le harcèlement en ligne. On a beaucoup parlé de harcèlement sexuels concernant les, dont sont victimes les femmes. Et du coup, Amnesty International a commandé un sondage au sujet d'expériences vécues dans des pays d'Europe et aux États-Unis aussi. Et il en ressort que, en fait, Internet peut être un espace effrayant et toxique pour les femmes. Chacun sait que la misogynie et les violences prolifèrent sur les plateformes de réseaux sociaux. Mais ce sondage montre à quel point les conséquences des violences en ligne sont désastreuses pour les femmes qui en sont victimes. Les effets ne disparaissent pas lorsque vous vous déconnectez. Imaginez que vous recevez des menaces de mort ou de viol lorsque vous ouvrez une application, ou que vous vivez dans la peur que des photos privées ou à caractère sexuel soient partagées sur Internet sans votre consentement. Le danger particulier des abus en ligne est la rapidité avec laquelle ils peuvent se propager. Un tweet violent ou injurieux peut se muer en un déluge de haine, ciblé en quelques minutes. Il est temps que les entreprises des réseaux sociaux prennent ce problème au sérieux. Près d'un quart des femmes qui ont été sondées dans ces 8 pays ont déclaré avoir subi des violences ou du harcèlement sur Internet au moins une fois, ce pourcentage variant de 16% en Italie à 33% aux États-Unis. Fait des plus inquiétants, 41% des femmes ayant subi des violences ou du harcèlement en ligne ont déclaré qu'en une occasion au moins, elles se sont senties menacées au niveau de leur sécurité physique. L'impact psychologique des violences sur Internet s'avère dévastateur. Dans tous les pays, 61% des femmes ayant déclaré avoir subi des violences ou du harcèlement en ligne ont affirmé que cela avait provoqué une baisse de l'estime de soi ou une perte de confiance en soi. Plus de la moitié ont déclaré avoir été victimes de stress, d'angoisse ou de crise de panique après avoir été la cible de violences ou de harcèlement en ligne. 63% ont déclaré que les abus ou le harcèlement en ligne ont provoqué chez elles des troubles du sommeil. Plus de la moitié ont déclaré que les abus ou le harcèlement subis avaient généré une perte de leur capacité de concentration pendant de longues périodes. Les réseaux sociaux, particulièrement pour les femmes et les groupes marginalisés, sont un espace essentiel s'agissant d'exercer son droit à la liberté d'expression. Les violences et les abus en ligne constituent une menace directe pour cette liberté d'expression. Plus de trois quarts des femmes ayant déclaré avoir subi des violences ou du harcèlement sur une plateforme de réseau social ont modifié la manière d'utiliser ces plateformes. Elles ont notamment limité ce sur quoi elles postent. 32% ont cessé de publier du contenu véhiculant leur opinion sur certains sujets. Les réseaux sociaux contribuent à renforcer la liberté d'expression, notamment l'accès à l'information, de bien des manières. Toutefois, la discrimination et la violence contre les femmes hors ligne ayant migré vers le monde numérique, de nombreuses femmes se retirent des conversations publiques ou s'autocensurent par peur pour leur vie privée ou leur sécurité. La liberté d'expression n'englobe pas l'incitation à la haine. Le droit à la liberté d'expression protège une expression qui peut s'avérer offensante, dérangeante et sexiste. Toutefois, la liberté d'expression n'englobe pas l'incitation à la haine ou à la violence. Qui plus est, chacun doit jouir de manière égale du droit à la liberté d'expression, qui englobe le droit pour les femmes de s'exprimer et de vivre sans être soumis aux violences ni aux atteintes aux droits humains en ligne ou comme hors ligne, comme on a pu en entendre parler récemment dans les médias. Voilà, donc on pense que les entreprises des réseaux sociaux n'en font pas assez. Ces abus, ces violences nécessitent des réponses du gouvernement et puis des entreprises en fonction de leur nature et de leur gravité. Les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits humains, notamment le droit à la liberté d'expression. Elles doivent faire en sorte que les femmes qui utilisent leur plateforme puissent le faire librement et sans avoir peur. Par ailleurs, il est temps que les gouvernements fassent en sorte que des lois, des politiques, des pratiques et des formations appropriées soient mises en place afin de prévenir les violences et abus en ligne à l'égard des femmes et d'y mettre un terme. Cependant, s'attaquer aux violences et aux atteintes aux droits humains sur Internet ne doit pas servir d'excuse pour restreindre l'exercice de la liberté d'expression. Voilà, alors j'ai trouvé une chanson qui va bien dans le thème. C'est d'un groupe ancien qui s'appelait Cantadis. Et cette chanson s'appelle « Samedi soir ».
Quand vient le samedi soir, j'ai peur dans la ville, dans le noir. Les hommes sont des loups, les regards étincellent, les mains se font frôleuses dans les rues, dans les bars. La ville est à eux, les voitures sont des pièges, les collets sont posés, c'est la chasse à la femme. La femme du samedi soir est en habit de cafard. Marcher seul est un crime qui se paie par la dîme, des gestes, des appels obscènes. Tu ne sortiras pas le soir. Tu n'iras pas au cinéma, tu ne boiras pas dans les bars, ne marcheras pas dans les rues quand vient le samedi soir. Tout ça c'est interdit, on te l'a pourtant dit, quatre murs et un toit, il faut rester chez toi. Viens le samedi soir, j'ai peur dans la ville, dans le noir. Liberté surveillée, liberté provisoire, couvre-feu pour les femmes, les arabes et les vieux.
On reprend donc un nouveau sujet par rapport à l'armement. Nos chercheurs d'Amnesty International ont découvert des équipements de torture illégaux qui étaient mis en vente par des entreprises chinoises au salon Milipol qui se tenait dans la capitale du 21 au 24 novembre dernier. Sur la base de nos constatations, les services de contrôle du salon ont réagi. L'importation et l'exportation d'équipements de torture sont interdites dans l'Union européenne depuis 2006. En 2016, l'Union européenne a également interdit la promotion et l'exposition de ces équipements dans les salons professionnels. Milipol est l'un des plus grands salons organisés en Europe dans le domaine de la sécurité et il se tient à Paris du 21 au 24 novembre 2017. Pourtant, certains de ces articles découverts figuraient dans des catalogues présentés dans ce salon et d'autres étaient exposés au salon. Et l'on se demande comment ils ont pu être importés dans l'Union européenne. Notamment des matraques à pointe, des fourches anti-émeutes à pointe envoyant des décharges électriques, des gilets envoyant des décharges électriques et de lourdes entraves pour les pieds vendues par des entreprises chinoises sur le salon Milipol. En ne faisant pas appliquer la législation, la France permet aux tortionnaires de venir faire leur marché. Milipol est le premier véritable test grandeur nature pour la nouvelle réglementation de l'Union européenne sur les instruments de torture et il est très inquiétant de constater que ces règles sont déjà bafouées moins d'un an après leur entrée en vigueur. Nous avons signalé ces observations au service du contrôle du salon, après quoi la société qui exposait des équipements de torture interdits a vu son stand fermé par les organisateurs, tandis que des catalogues des autres entreprises ont soit été retirés, soit la page incriminée déchirée. Des représentants de ce service ont dit qu'ils essaient de contrôler les stands pour surveiller la présence d'articles interdits de ce type. Il est nécessaire que Milipol accroisse de façon significative les ressources dédiées à cette charge. En septembre, l'Alliance pour les échanges commerciaux sans instruments de torture a été lancée sous la houlette de l'Union européenne par la commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Cette alliance, dont fait partie la France, vise notamment à promouvoir la législation lancée par l'Union européenne. L'Union européenne a ouvert la voie en ce qui concerne l'interdiction des équipements de torture, mais nous avons vu aujourd'hui des instruments de torture fièrement exposés au cœur de Paris. Si les États de l'Union européenne ne mettent pas correctement en œuvre cette législation au sein même de l'Union européenne, comment peuvent-ils persuader d'autres pays de mettre fin à cet atroce commerce ? Nous demandons instamment aux autorités françaises d'enquêter de toute urgence sur l'importation de ces articles illicites. Elles doivent mettre en place des mesures garantissant la stricte application de la législation de l'Union européenne avant que personne et qu'aucun pays ne continue de tirer bénéfice de ce commerce d'instruments conçu pour infliger des souffrances à des êtres humains. Voilà, donc vous pouvez voir cet article sur le site d'Amnesty International France, hein, vous faites amnesty.fr, et vous aurez cet article, cette découverte ahurissante de notre équipe sur ce stand à Paris, en plein Paris. Voilà, alors maintenant, une autre chanson que nous ont amené nos amis de Chandourène, « Ouvrez les frontières ».
Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser, avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. On veut que nos femmes ne manque plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici quand nous sommes tous en train de péter les plombs. Oh.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Oh. Y'a plus une goutte d'eau pour remplir notre sort. Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits, en levant très vite, sur le chemin de l'école, un beau jour il décide de prendre son envol. Prépare un voyage et on se jette dans le vide. Na 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 na.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Voilà, il nous reste un petit peu de temps pour parler de notre opération mondiale qui s'appelle 10 jours pour signer. Donc ça va se faire dans le monde entier, organisé par les groupes d'Amnesty dans tous les pays. Et pendant 10 jours, du 1er au 10 décembre, nous allons essayer de mobiliser le plus de monde possible pour venir soutenir des personnes dont les droits humains sont menacés. Alors sur Digne, nous serons le samedi 9 décembre de 10h à 17h à la médiathèque. Et vous verrez donc présenter les 10 cas choisis cette année qui sont un peu emblématiques de toutes les violations qu'on peut rencontrer sur notre terre. Hein. Donc vous aurez un cas à Madagascar, quelqu'un qui a été condamné pour avoir tenté de protéger le bois de rose. Au Tchad, quelqu'un qui encourt la prison à perpétuité pour un message sur Facebook, simplement. Au Honduras, des membres d'une association qui risquent leur vie pour la défense de leur terre. En Jamaïque, une femme qui est déterminée à lutter contre l'impunité policière. Au Bangladesh, quelqu'un qui a été assassiné à coups de machette pour avoir défendu les droits des personnes LGBTI. C'est-à-dire tous ceux qui sont les lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et intergenres. Voilà ce que veut dire LGBTI. En Chine, une femme qui est harcelée depuis 20 ans pour sa lutte contre les expulsions forcées. En Finlande, un militant trans qui lutte pour obtenir le droit d'être lui-même. Et puis en Turquie, ce qu'on appelle les 10 d'Istanbul, qui ont été emprisonnés, sont toujours inculpés pour avoir défendu les droits humains, parmi lesquels il y a la directrice d'Amnesty International Turquie, et il y a aussi le président d'Amnesty International Turquie qui est toujours en prison. En Égypte, une femme qui a été arrêtée pour son engagement contre les disparitions forcées. Et dans les territoires palestiniens occupés, deux personnes qui sont poursuivies pour avoir manifesté pacifiquement contre la colonisation illégale. Voilà, donc ces 10 cas seront présentés à la médiathèque le samedi 9 décembre de 10h à 17h. Donc venez signer nos pétitions, hein. Nous allons essayer d'en recueillir un maximum. Et pendant toute la semaine jusqu'au samedi 9 décembre, il va y avoir des signatures sur Digne, notamment au lycée Pierre-Gilles de Gênes, l'antenne jeune va faire signer un maximum de lycéens. L'année dernière, ils avaient obtenu 2000 signatures dans le lycée. Nous allons les aider le mardi 4, nous allons nous rendre, le groupe d'Amnesty de Digne va se rendre au lycée Pierre-Gilles de Gênes pour les aider à récolter ces signatures, parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles, puisqu'ils ont des cours, donc on sera présent. Et puis on ira aussi le jeudi au lycée Alexandra Davinel, il y a un professeur qui m'a demandé d'intervenir, et en fait ce sont ses élèves qui lui ont demandé la présence d'Amnesty, donc on va en profiter pour leur parler de notre association de défense des droits de l'homme. On est très heureux que ça vienne des élèves, et puis peut-être ils pourront eux aussi signer et faire signer leurs collègues, et nous pensons aussi obtenir des signatures au lycée du Sacré-Cœur, puisqu'il y a 5 jeunes qui ont accepté cette année de consacrer du temps à Amnesty International. Et donc, ils vont organiser dans leur lycée, et qui vont participer aux 10 jours pour signer à la médiathèque, et qui vont aussi faire signer leurs amis, leurs lycéens, dans leur lycée. Voilà. Sachant qu'une signature de pétition, ce n'est pas un contrat, donc un jeune à partir de 16 ans peut signer une pétition parce qu'il exprime par là sa liberté d'expression et son opinion. Et quand il est révolté par des injustices de par le monde, c'est son droit, ça fait partie des droits humains et des droits des jeunes, des enfants, hein, de pouvoir exprimer son opinion. Voilà, donc vous pouvez, si vous ne pouvez pas vous rendre à la médiathèque, vous pourrez signer nos pétitions à partir du 1er décembre sur le site amnesty.fr. Vous verrez la page qui est réservée aux 10 jours pour signer, hein, donc 10 personnes, 10 jours, et le 10 décembre. Le 10 décembre, c'est la journée anniversaire de la déclaration des droits de l'homme. C'est une date très importante pour nous, puisqu'on s'appuie sur cette déclaration pour demander aux États le respect pour tous et partout des droits humains. Voilà, donc mobilisez-vous, allez sur le site, venez à la médiathèque le samedi 9 décembre de 10h à 17h, nous rencontrer, signer les pétitions, puis on vendra aussi quelques calendriers, des albums pour enfants aussi, qui sont coéditées par Amnesty et qui peuvent faire de très beaux cadeaux de Noël pour vos enfants. Voilà, donc tout cela sera présenté à la médiathèque. Voilà, alors je remercie à nouveau les amis de Champtercier.
Nous aussi.
Et on va terminer cette émission par une musique que les amis de Champdourenne ont apportée, une chanson de Lavillier.
C'est parti, au revoir.
Une nuit où le froid jouait du rasoir, rue de Flandre, loin du pays, entre le crack et le poignard, question de peau, question de veine et de couleur. Je me suis plaqué comme un renard, rien n'a fait ça. Comme tu es d'un bailleur, ça m'a l'air d'un camion. Question de peau, question de main, image d'air.
Question de trop, question de chance, marge de run, hey, fille. Arrivera au fond des corridors. La forêt sanglante et l'horreur. Si Charles Péron, c'est l'Afrique. Romain, non, c'est la couleur. Question de peau, question de main. Question de trop, question de chance, marge de main.
D'Afrique, faut voir l'immigration des blancs. On peut crever, c'est très ethnique. Avec l'extrême onction des gants, question de peau, question de laine et de couleur. Question de trop, question de chance, marge d'erreur.
Merci, grand frère. Merci.